Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, 8e journée à Roland-Garros avec un coup de tonnerre aujourd'hui, le forfait de Roger Federer, une annonce faite dimanche en fin d'après-midi à travers un communiqué laconique, et ça fait beaucoup parler. Dans Terre débattue aussi évidemment, on évoquera la nouvelle avec la question qui fâche. Nos débatteurs du jour sont là, Camille Pin, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
Salut à tous.
Salut Adrien.
Salut tout le monde, salut Adrien.
Nous évoquerons également l'élimination de Serena Williams qui s'arrête dès les 8e de finale, ce sera notre débat du jour. Sans oublier la stat de Jeux 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et l'affiche de lundi entre Rafael Nadal et Yannick Sinner. Terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne donc Serena Williams, éliminée dès les 8e de finale du tournoi par Elena Rybakina, 6-3, 7-5. La Kazakh, 22e joueuse mondiale, qui n'a pas perdu encore un set cette année à Roland-Garros. Est-ce que finalement, cette élimination de Serena vous surprend, Bertrand?
Alors, pas du tout. Ce qui me concerne, l'élimination en général. Hein, aujourd'hui, je la voyais pas favorite, mais je me dis peut-être qu'elle peut quand même passer. Mais non, ça ne me surprend pas. Physiquement, c'est quand même très difficile. Alors, particulièrement sur terre battue, je pense qu'elle aura beaucoup plus de chances de gagner ce fameux 24e. Sur gazon, voire sur dur, mais sur terre battue, c'est trop difficile maintenant pour Serena à 39 ans. Beaucoup de difficultés à se déplacer. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de son jeu de jambes aujourd'hui. Une adversaire qui a bien joué, qui a été nerveuse dans les moments importants. Parfois, Rybakina, elle a rendu un break notamment. Dans le deuxième set, on l'a senti parfois se mettre à faire des grosses fautes. Mais dans l'ensemble, elle a maintenu un niveau de jeu très solide, la Kazakh. Et elle était nettement au-dessus, donc ce n'est pas une surprise pour moi, et ce n'est surtout pas une surprise de voir Serena quitter le tournoi à ce stade de la compétition. Je trouve ça bien déjà qu'elle ait fait huitième de finale, parce que sur terre, comme je disais, ça devient de plus en plus dur pour elle. Donc non, pas une surprise à mon avis, ça va lui donner du temps pour se préparer sur gazon, où là elle aura évidemment beaucoup beaucoup plus de chances de se rapprocher d'un éventuel 24e.
Elle a eu raison quand même de venir jouer à Paris sur terre battue, on sait que c'est pas sa surface de prédilection, avec son âge etc. C'est... Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais un grand chelem comme Roland, ça se joue, même si ce n'est pas une surface privilégiée. Donc, Serena, elle a ce courage aussi de se dire, j'y vais, je sais peut-être que je ne vais pas être performante jusqu'au bout, mais elle a ce courage de venir. On avait eu ce débat sur est-ce qu'elle peut, est-ce que c'est un boulevard pour Serena maintenant ? Voilà, on avait eu la même analyse, que ça semblait compliqué. Donc, effectivement, comme disait Bertrand, ce n'est pas une surprise. Après, la seule surprise pour moi, c'est le sens unique de ce match, ce qui veut dire que son niveau minimum ou moyen sur terre est en train de baisser par rapport aux nouvelles joueuses qui arrivent. Parce qu'à un moment, on ne ressentait pas ça. On avait l'impression qu'à part les toutes meilleures où elles pouvaient buter en finale, par contre, des joueuses un petit peu moins bien classées autour du top 30, top 20, ça passait. Là, on voit que sur terre battue et avec les mois qui avancent, elle va avoir 40 ans quand même, ce qui est juste exceptionnel. Ça commence à être compliqué même contre ces joueuses-là.
Je crois que c'est l'enchaînement aussi qui est un peu difficile. Là, c'est le quatrième match. Il faut à chaque fois se remettre physiquement, même s'il y a un jour... off entre chaque tour, c'est quand même de plus en plus difficile. Et on l'a vu aujourd'hui, parfois elle a fait quelque chose que j'ai quasiment jamais vu dans le tennis. Elle a à un moment donné touché une balle de la raquette, une balle qui sortait, c'est-à-dire qu'il y a eu une telle hésitation, faut-il la prendre, pas la prendre, finalement elle n'a pas eu le temps de retirer la raquette sur une balle qui sortait. Ça montre aussi un manque de lucidité à un moment donné assez rare à ce niveau-là, et qui en dit long, je pense, peut-être sur le fait qu'elle était un peu perdue aujourd'hui parfois sur le court.
Après, Bertrand, quand justement on la voyait en quête de ce 24e titre en Grand Chelem, on voyait qu'elle avait peut-être un frein plus mental que physique. Et là, ouais, c'est une des premières fois qu'on sent qu'effectivement, là, on est au quatrième tour. et que ça commence à être difficile, mais il faut arriver à 40 ans. Donc, c'est, oui. Il faut souligner quand même le côté exceptionnel de la chose. Mais je trouve que c'est une des premières fois qu'on la sent peut-être en train de fatiguer par rapport à des petites jeunes qui sont fraîches et c'est normal.
C'est-à-dire que placé sur la balle, on connaît le truc, hein, on le voit sur toutes les surfaces, mais là, évidemment, lorsque ça lui arrive dans la raquette, lorsqu'elle est bien placée, les parpaings, c'est toujours les mêmes. Hein, 40 ans ou pas, elle peut mettre encore son adversaire à 3-4 mètres de la balle sans aucun problème.
Bien sûr, elle a toujours cette explosivité voilà. Hein, qui est
le service
qui
aussi,
née
ça,
chez elle.
Ouais. Mais le problème, c'est en défense, Rybakina, c'est une joueuse qui fait 1m84, qui sert à 185, 190 en première balle, qui a aussi une bonne seconde. Et là, donc, derrière son service, elle prend le jeu à son compte. Et par contre, là, en défense, ce n'est pas la même histoire du tout. Hein, c'est beaucoup plus difficile.
Laurent, il faut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein sur ce tournoi pour Serena, au final.
Bah, je pense que huitième de finale aujourd'hui à Roland, pour Serena, ça correspond à son niveau, tout simplement. Voilà. Elle était en deuxième semaine, enfin ce qu'on appelle la deuxième semaine à partir des huitièmes, même si elle a perdu un dimanche. Mais moi, honnêtement, on en avait parlé l'autre jour, c'était difficile d'imaginer, même avec un tableau qui s'était ouvert, que Serena puisse aller en finale ou encore moins jouer le titre. Et autant sur dur, on la voit, où à Wimbledon, elle va souvent en demi, en finale, et elle perd contre des top joueuses, des Osaka, des Halep, des Andreescu, etc. Mais je pense qu'à Roland-Garros, elle est beaucoup plus fragilisée. Il y a beaucoup plus de joueuses qui sont susceptibles de la battre. Et même si elle avait passé Rybakina aujourd'hui, je pense même avec un tableau qui est assez cocasse, hein, puisqu'il est, on a des filles inexpérimentées quand même à ce niveau, à mon avis, il y a trop de joueuses sur terre battue qui sont susceptibles de la battre. Donc, c'était de toute façon presque inéluctable pour elle, cette sortie de route, après que ce soit au troisième tour, en huitième ou en quart. Quand on est Serena Williams, qu'on a gagné 23 grands chelems, ça ne change pas grand-chose, à mon avis. Donc, ce n'est pas un mauvais Roland. Et pour elle, c'est voilà, un huitième de finale. On va parler de quelqu'un d'autre après qui a fait également un huitième de finale ici. Et qui a également son principal objectif qui arrive dans quelques semaines. Donc, pour moi, c'est un bilan globalement positif pour Serena dans la mesure où je l'attendais pas dimanche prochain.
Le problème, c'est que la jauge, la pression est de plus en plus grande parce que la porte se referme petit à petit. Elle est de plus en plus étroite pour aller chercher ce 24e Grand Chelem. L'âge augmente. Et pendant ce temps-là, donc les chances de gagner un grand chelem diminuent.
Oui, mais ce n'est pas Roland qu'elle pense aller le chercher.
Bien sûr, évidemment. Mais à chaque grand chelem qu'elle dispute, là où on l'attend, justement, c'est-à-dire pas à Roland, mais à Wimbledon ou à l'US Open, en Australie, on va dire plutôt avant tout à Wimbledon, la pression va être énorme. Et c'est ça, elle a du mal à résister à cette pression-là, justement, déjà les années précédentes. Et elle va être de plus en plus forte parce qu'il y aura de moins en moins de chances de gagner. Donc là, effectivement, Roland-Garros, ce n'est pas trop grave. Mais à Wimbledon, la pression va être gigantesque pour elle.
Et je pense qu'aujourd'hui, à Roland, un de ses principaux arguments, c'est son aura. Tu parlais tout à l'heure de la nervosité par moment de Rybakina qui ouais. était largement au-dessus. Je pense que voilà, ça reste Serena en face. Donc, c'est compliqué de la jouer et de, entre guillemets, de l'achever avec toutes les guillemets de rigueur. Mais voilà, en termes de niveau, oui, je pense qu'aujourd'hui, Roland, c'est trop dur pour elle. Et tu as raison, la porte devient de plus en plus étroite. Donc, on l'a dit l'autre jour, ce sera de plus en plus compliqué. Mais c'est pas à Roland, je pense que c'est presque impossible. Ailleurs, c'est très compliqué.
On va enchaîner avec la stat de jeu 7 et mat qui, justement, concerne le tableau féminin. La stat de jeu 7 et mat aujourd'hui concerne donc le tableau féminin avec cette stat assez incroyable. Pour la troisième fois depuis le début des années 90, les deux quarts de finale d'une même partie de tableau sont composés de quatre joueuses n'ayant jamais disputé de demi-finale en Grand Chelem. On aura donc des novices à ce niveau. Elena Rybakina, on en a parlé, qui a battu Serena Williams. Pavlyuchenkova, Zidanec et Badosa, ce sont les quatre qui n'ont jamais atteint le dernier carré d'un Grand Chelem. Il faut remonter à 2009 à l'US Open pour voir quatre joueuses aussi novices à ce niveau-là. C'était Vic Mayer, Bondarenko, Wozniacki et Mélanie Houdin. Et sinon, il faut revenir encore à Roland-Garros, c'était en 2001 avec Clijsters, Hénin, Mandula et Krasnourudskaya.
Petra Mandula, fabuleux.
Ah, oui. Est-ce que vous savez à chaque fois qui a gagné le tournoi derrière?
Alors, en 2009, c'est Clijsters qui gagne.
Clijsters qui bat Wozniacki, ouais. Donc la novice. Ouais.
Et il y avait Wozniacki-Vic Mayer en demi qui s'était joué parce qu'il y avait eu de la pluie qui était jouée sur le Armstrong et non pas sur le Arthur Ashe.
Et en 2001 temps. Roland.
En 2001 Roland, c'est Clijsters Capriati en finale, donc c'est Capriati.
Exactement, qui gagne 12-10 au troisième.
C'est ça.
Grande finale.
Donc ça augure quand même d'une fin de tournoi plutôt pas très positive pour ces quatre quarts de finalistes là.
En fait, le problème, c'est qu'il y a donc il y a trois joueuses hein, qui ont déjà fait demi en Grand Chelem. Il y a Swiatek, bien sûr, qui a gagné l'année dernière. On a Kenin, qui est quand même maintenant une habituée aussi. Et la troisième, c'est Stevens, qui a gagné l'US Open. Donc, quelques joueuses expérimentées sont toutes dans le haut de tableau. Effectivement, on parlait de pression pour Serena. Là, il va y avoir de la pression aussi pour ces joueuses-là qui n'ont pas l'habitude, qui ont une chance peut-être inouïe, une chance unique peut-être d'aller en finale d'un grand chelem. Après, chance unique peut-être, mais peut-être pas non plus, parce que chaque grand chelem féminin maintenant, on en est à ce constat quasiment de surprise. Alors là, c'est pire que tout. Hein. Les sept premières têtes de série sont parties très vite. C'est quasiment du jamais vu. Mais on a l'impression que finalement, à chaque tournoi du Grand Chelem, il y en a une qui va peut-être avoir une chance parce que le tableau s'ouvre du fait que les têtes de série ne tiennent pas leur rang. Donc, ça va être intéressant. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a de très grandes chances que la championne se trouve actuellement dans le haut du tableau.
Oui, on a déjà parlé, je ne sais plus, les jours précédents, on mettait quand même Iga Świątek en favorite numéro 1.
Oui, très clairement. Après, dans le bas du tableau, c'est une joueuse comme Badosa, par exemple, c'est une joueuse qui est en pleine confiance sur terre. Elle a beaucoup, beaucoup gagné de matchs sur terre battue pendant la préparation. Je crois même, je ne vais pas dire de bêtises, que c'est la joueuse qui a le plus gagné sur terre battue au cours de ce printemps 2021. Alors, ça ne veut pas forcément dire, elle a gagné à Belgrade, elle n'a pas non plus gagné les plus grands tournois. Mais en revanche, ça veut dire que c'est une joueuse qui a du rythme, qui a de la confiance, et là, qui vient d'enchaîner quatre victoires supplémentaires. Donc, c'est le genre de joueuse qui, dans un tournoi très ouvert comme ça, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de têtes qui tombent, peut vraiment tirer son épingle du jeu. Après, je pense qu'on avait déjà un peu connu ça il y a 2 ans avec Vondroušová qui était allée en finale. Et pareil, c'était le bas du tableau, d'ailleurs, je crois déjà, où il y avait eu beaucoup de surprises. Et l'aspect mental va jouer énormément. Je pense que c'est parce que ces quatre joueuses vont forcément se dire qu'elles ont la chance de leur vie, messieurs. Peut-être. Donc, ça va jouer là-dessus.
On en a donc terminé avec la partie féminine de ce tableau de Roland-Garros et on va désormais passer à la question qui fâche. La question qui fâche aujourd'hui concerne Roger Federer. Roger Federer, manque-t-il de respect au tournoi parisien ? C'est la question qu'on va se poser. On a appris à travers un communiqué le retrait du tournoi du Suisse. On le rappelle, il a joué 3h35 samedi soir face à Kopfer. Une victoire en 4-7, il a fini très tard, peut-être fatigué. Et dans ce communiqué, voilà, il a expliqué avoir eu 2 opérations au genou, plus d'1 an de rééducation. Il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Alors, selon vous, Federer a-t-il eu raison de se retirer ou manque-t-il de respect au tournoi parisien ? Laurent ?
Alors, non, je ne pense pas qu'il ait manqué de respect parce que, pour moi, il a pris personne en traître. Le deal était, de son côté en tout cas, très clair depuis le début. Federer, il a annoncé dès le mois de mars, quand il a décidé de ne pas aller à Miami, et qu'il a dit qu'il reprendrait la compétition sur terre battue. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que son objectif de la saison, c'était Wimbledon, et après les Jeux Olympiques, mais clairement surtout Wimbledon. Et il a dit, avant le gazon, pour arriver à être performant sur gazon, il me faudra des matchs avant. Et avant, il y a quoi, le gazon ? Il y a la terre battue. Donc, je vais jouer sur terre battue. Mais très clairement, il jouait sur terre, pas pour préparer Roland-Garros, mais pour retrouver du rythme de la compétition. On l'a dit, il n'a pas joué pendant plus d'un an. Il a joué 2 matchs à Doha début mars. Donc, il fallait qu'il retrouve du rythme. C'est pour ça qu'il était là. Après, il n'a pas prémédité, comme j'ai pu le lire, de s'arrêter en huitième de finale. Il ne s'est pas dit avant le tournoi, si je passe 3 tours, je m'arrête. S'il avait gagné hier en 1h30, 6-1, 6-1, 6-3 contre Kopfer, il aurait été sur le court lundi. Seulement, il a fini à minuit 45, il a joué 3h30. On a senti que c'était très dur pour lui, y compris physiquement. Il était vraiment emprunté hier. Je trouvais que c'était... Il y a des signes qui ne trompent pas chez Federer. Et quand il n'est pas bien physiquement... Ça se sent très très vite. Donc moi je suis ni surpris ni choqué Je comprends qu'on puisse être déçu. Après, on parle aussi de quelqu'un qui joue son 80e tournoi du Grand Chelem dans sa carrière, qui n'a jamais fait le moindre forfait, qui n'a jamais abandonné un match en cours de route. Donc, je pense que si quelqu'un a respecté le jeu depuis plus de 20 ans, c'est bien lui. Donc, on soit déçu, je le comprends. Mais Guy Forget l'a dit aussi, il a des douleurs, il a des inflammations. Donc, je pense que vraiment, s'il avait pu le faire sans prendre le moindre risque pour Wimbledon, il l'aurait fait. Mais il a décidé d'être raisonnable. Et moi, j'ai eu du mal à lui en vouloir.
Ce qui interpelle les gens, en fait, c'est presque... On a l'impression qu'il est un petit peu blessé, mais pas tout à fait complètement blessé. Et se retirer d'un tournoi sans être blessé, ouais. C'est ça, ça qui interpelle, j'imagine.
Camille. Après,
c'est une question de blessure, non, c'est une question Adrien, physique. C'est...
Oui, mais c'est, moi, je souligne son authenticité. C'est-à-dire que quand on lit son message, il le dit comme il l'aurait dit à sa famille. Donc, j'aime ce côté-là chez Roger. En revanche, je trouve que le contexte actuel fait que les gens ont envie de voir les champions revenir. Les joueurs ont envie de jouer. Il y a une espèce de dynamique positive sur « enfin, il y a des tournois qui arrivent ». Et que finalement, lui, il a joué à sa façon par rapport à son ressenti. Mais en fait, je trouve que dans le contexte actuel, c'est une nouvelle qui est difficile à entendre. Et parce qu'on a envie de voir du jeu. Alors, il aurait eu une blessure de 3 cm, on dit, mais bien sûr. Là, c'est juste pour se préserver. Moi, franchement...
Le public l'a vu.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Roland Garros, qu'à un moment donné, il s'est battu.
Si c'est pour prendre 3 fois 6-5 contre Berrettini sans pouvoir courir...
C'est le jeu, Bertrand. Kopfer l'a fatigué. Tu te rends compte, le pauvre Kopfer, là, qui est passé pas loin.
Pareil, j'ai pensé à Kopfer, effectivement, mais il pouvait gagner aussi hier. Hein,
il pouvait gagner et Roger a mérité sa victoire. Il n'allait pas lui donner, ça c'est bien évident. Mais parce qu'à un moment donné, un tournoi, tu gagnes ton match pour aller affronter quelqu'un d'autre au tour d'après. Et qu'aujourd'hui, on a envie de voir du jeu et que si c'est juste pour se préserver, moi je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'aille pas se présenter face à Berrettini.
Pour se préserver, je crois que c'est pour ne pas prendre, pour minimiser les risques. C'est une question de.
Il se connaît, Laurent, bien sûr. C'est pour ça que là il va pas. Mais qu'à un moment donné, tu gagnes ton match pour enchaîner. On est dans un contexte où il faut que les joueurs viennent, qu'on les voit, que. Je trouve que c'est légèrement maladroit tout en étant très authentique ce qu'il a pu déclarer. Et après, moi, c'est mon ressenti juste de fan de tennis comme tout le monde, mais qu'en ce moment, à la limite, j'aurais préféré qu'il soit vraiment blessé. Quoi.
Mais est-ce que la fan de tennis que tu es ne préfère pas voir Roger Federer en pleine forme à Wimbledon et peut-être faire un très grand Wimbledon plutôt que d'aller faire un huitième de finale dans lequel il va malheureusement hypothéquer ses chances pour la suite et finalement peut-être ne pas pouvoir jouer à Wimbledon ou en tout cas ne pas bien y jouer. Il faut voir les choses avec perspective aussi, c'est ça qui est important.
Bien sûr, après c'est justement ma philosophie à part d'être complètement blessée, je vois pas, j'ai même pas l'idée en tête de pas rentrer sur le terrain. Voilà, ça c'est. Mais je trouve que là il y a autant, je suis pour que les joueurs gèrent leur parfaitement bien leur calendrier pour se protéger, mais une fois qu'on est dans le tournoi. À part d'être super blessé, moi je trouve que c'est bien de continuer et donc c'est pour ça que je suis un peu déçue en fait, mais je suis relativement par contre fière de son authenticité parce qu'il n'a pas mitonné en disant j'ai autre chose pour que ça passe bien.
Il aurait pu le faire. On est tous déçus, c'est-à-dire qu'évidemment le premier constat que je voulais faire c'est que nous sommes tristes de ne plus le voir jouer à Roland-Garros cette année. Tout le monde est triste.
Vous répétez souvent, Camille et toi, on est déçus. C'est le public qui est déçu, finalement.
C'est ce que je dis. Nous, c'est
une bonne chose de
programmer
en soirée. Enfin, on l'a pas vu, on l'a vu deux matchs. Quand je dis « on », c'est le public. Roger Federer, on sait quand il vient, c'est un événement. Et là, il était à huis clos. Il y a aussi un problème de programmation là-dessus.
Non, il n'y a pas de problème de programmation. Il y a eu Nadal et Djokovic qui ont été programmés en night. À un moment donné, c'était obligatoirement Federer devait aussi passer par la night. Là, il y a malheureusement la programmation. C'est un casse-tête et à un moment donné, ils ne peuvent pas faire autrement. Ou alors, il aurait fallu le programmer plus tôt dans le tournoi. Mais on ne savait pas non plus s'il allait gagner contre Istomin ou pas au premier tour. C'était un peu l'inconnu.
Il avait perdu le premier tour contre Istomin, tout le monde aurait gueulé s'il avait joué en Night Session.
Voilà, donc c'est ça, là-dessus, la programmation, elle a toujours bon dos, mais c'est toujours facile de refaire la programmation après. Mais avant, c'est difficile. En l'occurrence, ça leur a donné raison puisqu'il a gagné. Et qu'il avait un huitième. Donc je dis, c'est triste, effectivement, de ne plus le voir jouer. Mais d'abord, on ne connaît pas son état physique réel à l'issue de ce match. Peut-être tout simplement qu'il n'est pas en état physique de rejouer un match au meilleur des cinq lundi. Ça, c'est une première chose. Donc, il le sait lui-même, il se connaît parfaitement à son âge. Il n'est peut-être pas tout simplement en mesure, il sait très bien qu'il ne peut pas, s'il doit se programmer, se dire dans sa tête, bon, il y a peut-être 5-7 à faire contre Berrettini, qu'il ne peut pas. Et dans ces cas-là, à l'âge qu'il a, avec le palmarès qu'il a et les ambitions qu'il a à Wimbledon, je comprends le fait qu'il puisse prendre cette décision. Ensuite, il y a quand même un argument dont on n'a pas parlé, une chose très importante. Je vous rappelle que le tournoi de Roland-Garros a été décalé d'une semaine. Donc, le fait de décaler ce calendrier d'une semaine, bah, c'est un petit peu un retour de boomerang aussi pour le tournoi, pour la fédération. Ça a été fait pour des raisons pour le public, pour des raisons financières, avant tout, on peut le comprendre. Mais au moment où Roger Federer dit qu'il va venir jouer à Roland-Garros, le tournoi, il est une semaine plus tôt. Donc, ce n'est pas la même chose par rapport à la préparation.
Je suis d'accord, tu as raison, mais je crois que ça n'aura rien changé fondamentalement.
Bah, peut-être que ça n'aura rien changé, mais en l'occurrence, ça change quand même que le huitième de finale arrive une semaine plus tard dans le calendrier. Son objectif, c'est le gazon. Il a dit, c'est donc aller à Halle, à Wimbledon. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que Guy Forget était très clément et très bon d'ailleurs, je trouve, dans ses propos suite à ce forfait. Je pense que le tournoi sait aussi qu'il y a eu cette chose-là, qu'il y a eu ce décalage dans le temps. Ça, j'ai l'impression que ça, tout le monde l'a oublié. Et donc, c'est d'autant plus, entre guillemets, je ne dis pas normal, c'est regrettable, mais on comprend d'autant plus la décision de Federer. Après, on peut dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'organisation, du public ou de l'adversaire, etc. Je peux le comprendre. C'est vrai que pour Berrettini, bah, ça allait faire 4 jours sans jouer. Ça peut jouer peut-être aussi en sa défaveur. On verra en quart de finale. Mais le fait que le tournoi ait été décalé d'une semaine, bah, c'est une décision qui a été prise quand même. Stuttgart, ils n'ont pas demandé à Stuttgart s'ils pouvaient décaler d'une semaine. Stuttgart, ils le subissent, ça, par exemple. Hein, tournoi sur gazon qui a lieu dès la semaine prochaine. Donc, la fédération a pris cette décision. Federer prend la sienne par rapport à son état physique du moment, au nombre de matchs qu'il a, à l'essence qui lui reste dans le moteur par rapport à ce tournoi et à ce dont il a besoin pour la suite du tournoi. Donc, pour moi, ne serait-ce que par rapport à cet argument, sa décision est tout à fait recevable.
Après, Bertrand, juste sur le papier, de venir à Roland pour faire des matchs, ça ne te choque pas ?
C'est pas ça, mais je te dis, le tournoi...
C'est un peu ça, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est que après, c'est Roger, ça, mais... et il a ce luxe de pouvoir choisir parce qu'il s'est donné les moyens pour dans sa carrière de légende. Mais tu oublies le contexte Roger, c'est particulier quand même de se dire, bah, je vais juste reprendre un peu des marques et pour... Mais...
Camille, tu parlais du contexte particulier que les gens avec la pandémie ont besoin de revoir les stars, les joueurs, etc. Mais le contexte de Federer, il est quand même aussi très particulier. On parle d'un joueur qui n'a pas joué pendant 13 mois et qui a joué... Deux opérations du genou, mais qui a joué 9-7 en 16 mois. Donc oui, il avait besoin de matchs. Et je pense que... quelqu'un me disait sur Twitter, dans ce cas-là, il avait qu'à s'aligner à Madrid ou à Rome et ne pas venir à Roland-Garros parce qu'on ne se retire pas d'un grand chelem. Mais sauf qu'il avait besoin aussi de jouer des matchs en 3-7 gagnants. Il ne pouvait pas arriver à Wimbledon, même si c'est une surface différente, sans avoir joué un match en 3-7 gagnants depuis un an et demi. Ce n'était pas possible. Donc oui, il a pris Roland-Garros comme un tournoi de préparation, mais pas par plaisir, pas par principe, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix, lui, dans son contexte à lui, qui est quand même... extrêmement particulier depuis un an et demi.
Voilà. Comme l'a dit Laurent, des gens qui ont pris des billets pour lundi, ça leur coûte quand même de l'argent. Ils veulent voir. Peut-être ils se déplacent de toute la France. Ils disent en fait, il n'y aura pas Federer. Tu vois, c'est il y a un côté un peu triste quand même. Tu te dis,
il y avait assez peu de chances de l'avoir quand ils ont pris leur billet.
Nous, on est un petit peu détachés de tout ça parce que on va au stade tous les jours, on suit, on est les médias. Quand des gens, c'est leur idole, ils ont envie de venir le voir. Le pauvre, il me lâche là. C'est quand même dommage quoi.
Oui, mais peut-être que ces mêmes gens, si c'est leur idole, ils seront contents de le voir soulever le trophée ou être en finale
à Wimbledon. Mais de le voir à la télé, c'est pas pareil que de le voir en vrai, tu sais, Bertrand.
Ah, bah, si c'est leur idole, ils seront plus contents de le voir gagner Wimbledon que de le voir perdre en huitième à Roland-Garros en vrai.
Il y a aussi quelque chose, je pense que ce n'est pas une décision qu'il prend tout seul. Hier, sur le court, il répond à Marion Bartoli. Ensuite, il parle à la télé, très brièvement. Et jamais, à aucun moment, il n'évoque la possibilité de ne pas jouer contre Berrettini. Et c'est en conférence de presse qui, très vite, dès la première question, je crois, qui dit que voilà, il verra comment il se sent demain et qu'il ne doit pas prendre de risques, qu'il doit évaluer vraiment la situation. Moi, mais c'est, je me trompe peut-être, je pense qu'avant cette conférence de presse, il a fait un petit débrief, il a eu une discussion, peut-être qu'il a dit que voilà, il se sentait un peu limite physiquement. Et peut-être qu'on lui a dit, écoute, on verra, il faut faire très, très attention. Donc, je pense qu'il a préparé le terrain hier avec cette conférence de presse. Moi, très honnêtement, dès la conférence de presse d'hier, pour moi, c'était terminé. Il allait déclarer forfait. Si on lisait entre les lignes, il n'y avait quasiment aucune chance qu'il joue contre Berrettini. Et puis, l'autre truc, c'est que, il a pris comme un tournoi de préparation, mais c'est aussi un compétiteur. Et Federer, s'il sait qu'il n'a aucune chance, ou quasiment aucune chance de gagner un tournoi, il n'aurait jamais fait ça ailleurs qu'à Roland-Garros, clairement.
Non, mais c'est triste. Après, je crois quand même que ce que tu as dit tout à l'heure, Laurent, il faut le retenir, c'est quand même très important. Il a joué 79 grands chelems avant celui-ci, sans forfait ni abandon. Il n'a jamais abandonné un match, même blessé, parfois très blessé, demi-finale de l'Open d'Australie 2005 contre Safin, par exemple, où il se bat jusqu'à la fin du cinquième set. Donc, c'est la première fois de sa carrière à 39 ans et 10 mois, je crois, ou 9 mois, qu'il déclare forfait dans un tournoi de Grand Chelem. Je crois qu'on peut peut-être quand même se mettre un tout petit peu à sa place et comprendre que lui, il sait comment il fonctionne aujourd'hui, il sait exactement comment est son corps et ce qu'il peut faire avec et ce qu'il ne peut pas faire. Et que je pense que tout le monde sera encore une fois très content de le voir jouer peut-être à bon niveau à Wimbledon. Donc on peut peut-être pardonner quand même cette unique fois dans sa carrière à presque 40 ans.
Mais Bertrand, moi je pense que c'est vraiment son message. À mon avis, il est peut-être plus touché et plus blessé que ce que son message laisse penser. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il ne rentre pas sur le terrain, voilà. On ne connaît pas son réel état.
Exactement, ce que je disais tout à l'heure.
Il n'en parle pas parce qu'il a envie de garder ça pour lui et peut-être qu'il a mis un message qui semble très banal et alors que dans le fond peut-être qu'il a ouais. Des sacrées douleurs et moi je respecte ça à 100% et parce que c'est Roger comme tu dis c'est quand même un joueur qui est hyper fair play qui joue le jeu surtout donc on n'est pas du tout en train d'attaquer ça et d'ailleurs le tournoi l'a largement souligné le fait qu'il le suive là-dessus c'est qu'il connaisse aussi Roger et je pense que juste que dans sa tournure, ça paraît très détaché, alors qu'à mon avis, il doit avoir mal partout, il doit avoir des douleurs partout. Et peut-être que le plus simple, ça aurait été de dire, voilà, j'ai quelque chose. Et je pense qu'il n'y aurait même pas eu de débat.
Il a expliqué quand même qu'à son âge, c'était souvent le matin au réveil qu'on se rendait un petit peu plus compte des choses. Et qu'il a bien dit, on se réveille parfois, et c'était le cas certainement aujourd'hui, en pouvant quasiment plus bouger, en ayant des petites douleurs un peu partout. Avec les douleurs qu'il a dû avoir aujourd'hui, et
il arrête de
jouer perspective d'un match au meilleur des cinq derrière, mais
pas c'est, du pas, c'est pas une tournée d'adieu là, on est sur un tournoi professionnel.
On n'en sait rien.
Il n'a pas été professionnel dans ce tournoi. Hier, il était manifestement pas.
On est très clément avec lui. Si c'était Djokovic, on lui tomberait dessus.
Concernant son état, juste la phrase de Guy Forget tout à l'heure sur RMC.
Djokovic a abandonné un nombre de fois très important en grand chelem, Adrien. Hein. C'est pas du tout la même chose.
Attends, on parlera de Djokovic après, mais on dit on ne sait pas dans quel état il est, on ne sait pas exactement la nature d'une éventuelle blessure ou de son état. Juste Guy Forget a dit, Roger Federer, me disait tout à l'heure que c'est en se levant le matin qu'il voit comment il se sent. Il a des petites gênes, des douleurs inflammatoires. Donc, est-ce qu'il aurait pu jouer si ça avait été une finale? Oui, sans aucun doute. Mais il prend un risque. Et ce risque, il ne veut pas le prendre.
Exactement.
Moi, je suis désolé, je comprends qu'il ne veuille pas le prendre.
Exactement. Voilà. Et Adrien, si dans 5 ans, Novak Djokovic est à Roland-Garros, puis eux, ça devient plus dur. À ce moment-là, il aura 39 ans, que sur terre battue, on sent qu'il est dépassé par la jeune génération. Mais que sur gazon, peut-être, il a l'occasion, admettons, de battre un record, qu'il est encore, à la bagarre avec Nadal, battre un record ou de faire quelque chose à Wimbledon. Et qu'il prend la même décision qu'aujourd'hui, je pense que je dirais exactement la même chose. Il aura tout à fait le droit, avec la carrière qu'il a eue, et en se connaissant, il aura le droit aussi de faire ce choix, parce que de ne pas prendre un risque supplémentaire. Là, ce que vient de dire Laurent, c'est tout à fait ça. Il prend un risque important, je pense, s'il joue lundi. Alors, évidemment que c'est très, très frustrant pour tout le monde, ceux qu'il aime, le public, etc. C'est extrêmement frustrant. Mais néanmoins, il se doit de ne pas prendre ce risque si vraiment le risque est important et de gâcher dans ces cas-là le gazon. Et là, tout le monde sera encore plus dégoûté s'il ne joue pas sur gazon ou s'il ne peut pas jouer Wimbledon.
Et pardon, Adrien, mais l'argument de Djokovic qui consiste à dire « Oui, vous défendez Federer, si ça avait été Djokovic, vous lui seriez tombé dessus », ça a un nom, ça s'appelle un procès d'intention. Donc, de toute façon, on ne peut pas répondre à ça parce que par définition, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui te fait un procès d'intention et qui pense à ta place. Mais Bertrand a tout dit, le contexte n'est pas le même. On ne va pas comparer un abandon à 25 ans dans un autre contexte. Et encore une fois, s'il y a 40 piges, Djokovic, en ayant joué 3 matchs en un an et demi, arrive comme ça et un peu touché et se retire, je pense qu'on aura exactement la même compréhension, oui.
On va parler maintenant de l'affiche du lendemain, parce qu'il y a, d'autres matchs qui vont jouer si Federer-Berrettini n'aura pas lieu. On a choisi de mettre en avant Nadal-Sinner. L'affiche du jour oppose donc Rafael Nadal à Yannick Sinner en troisième rotation sur le Philippe Châtrier. Un quart de finale qu'on attend avec impatience. Ce sera la troisième confrontation entre les deux joueurs. Nadal mène 2-0. Il l'a battu récemment à Rome, d'ailleurs, en 16e, 7-5-6-4. Est-ce que, selon vous, Nadal est vraiment trop fort en ce moment face au jeune Italien ? Camille, vas-y.
Je pense que Yannick Sinner a eu des moments dans sa jeune carrière où il était ultra impressionnant, notamment sur surface rapide. Il a quand même un jeu assez très agressif, notamment en revers. Enfin, j'adore ce joueur. Je trouve que là, il est légèrement plus friable sur terre battue ces derniers temps, même s'il était en quart l'année dernière à Roland. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un joueur de terre. Donc, je pense que sur cette période-là, je l'ai vu légèrement galérer sur Arthur Hinderknecht la semaine dernière. Voilà. C'est des signes que peut-être qu'en ce moment, il fait des réglages ou qu'il n'a peut-être pas le niveau de l'année dernière sur Roland-Garros, bien qu'il soit dans le top 20, ce jeune homme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne le vois pas aller chercher dans son contexte à lui actuel une victoire sur Rafa. Je pense qu'il le prendra, mais peut-être l'année prochaine, ou c'est ce genre de garçon qui va à un moment aller justement avoir des victoires comme ça. On pense à Tsitsipas, on passe à qui pour détrôner Nadal, ces joueurs-là, mais pas sur cette année.
C'est un choc qui va faire flop, messieurs ?
Non, pas forcément, mais ils se sont affrontés il y a 8 mois. Il ne faut pas oublier que Roland-Garros, ce n'était pas il y a un an, c'était il y a 8-9 mois sur cette même habitude de Roland-Garros avec le décalage du tournoi à l'automne. Donc, on a déjà eu des prémices de leur affrontement. Alors, il faudra voir comment Sinner a progressé, à quel point il a progressé depuis ce premier affrontement à Roland-Garros jusqu'à celui de demain. De ce lundi. Après, je pense qu'il a progressé, évidemment, mais pas suffisamment. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, il avait fait un premier set de très bonne qualité, l'Italien. Ça avait été très disputé pendant un set, comme souvent un set disputé remporté par Nadal. Et puis derrière, l'Espagnol avait beaucoup plus déroulé et gagné finalement relativement tranquillement.
7-6, 6-4, 6-1.
Voilà, 6-4, 6-1. Tu vois, c'est un score assez classique à la
Nadal. 1h26 du matin.
Sur terre battue, voilà. J'ai l'impression que malgré ses progrès, Sinner va être évidemment encore trop léger pour battre un Nadal au meilleur des 5, c'est-à-dire gagner, comme l'a souvent répété Laurent à juste titre, gagner 3-7 contre Nadal sur terre battue, 3-7 dans le même match, c'est extrêmement difficile. Alors, pourquoi pas voir l'Italien prendre un set, effectivement, le premier, hein, souvent c'est souvent le premier, ou un deuxième avec un petit relâchement de Nadal, s'il fait vraiment un très gros match, oui, mais après, avec la montée en puissance de Nadal sur terre depuis Monte Carlo, maintenant c'est de plus en plus impressionnant chaque année parce qu'il commence souvent assez bas et il termine souvent très très haut comme l'année dernière, son niveau sur terre, je vois mal Sinner pouvoir le battre. L'inquiéter un petit peu, je l'espère, en tout cas pour l'intérêt de la partie, le battre, non, je ne le vois pas le battre.
Laurent ?
Malheureusement, je vais te dire, je suis évidemment d'accord avec Camille et Bertrand. Non, je pense que on peut prendre un set, hein, ça peut aller vite. Hein, Popirine a failli prendre un set au premier tour contre Nadal. Donc, à ce niveau-là, il suffit d'un break. Je me souviens de David Goffin, il y a 2 ans, je crois, qui avait pris un set aussi à Rafa, le troisième, en 16e de finale. Parce que voilà, vous faites un petit break comme ça en milieu de set, vous faites 2-3 bons jeux de service derrière. Voilà, vous pouvez perdre en 4-7 sans avoir inquiété vraiment la personne. D'ailleurs, parfois, on a un match plus difficile en gagnant 3-7-0, 7-5, 7-6, 7-6 qu'en gagnant en 4-7 en ayant perdu une manche comme ça et gagné 3-7 facilement. Donc, la question de savoir s'il peut lui prendre un set ou pas, oui. La question de savoir s'il peut l'inquiéter sur la durée totale d'un match, honnêtement, je ne crois pas parce que Nadal va être Nadal, ou alors il y a quelque chose qui nous a échappé et qui va nous sauter aux yeux demain, mais bon, ce serait quand même surprenant. Et après, je suis assez d'accord avec Camille sur cette campagne sur Terre. Il a été, c'est très correct hein, ce qu'il fait Sinner, et encore une fois, il a 19 ans, il est en huitième de finale et on trouve ça juste normal. Ouais. Non, il a un niveau plancher, encore une fois, qui est anormal pour son âge dans le contexte du tennis actuel. Mais là, c'est Nadal, et je pense que ce soit Musetti contre Djokovic ou Sinner contre Nadal, la marche me paraît vraiment très haute. Après, parfois, dans une carrière, et avec des joueurs très talentueux, il y a des matchs paliers, des matchs révélations, où ces joueurs-là, qui ont un potentiel extraordinaire, le révèlent pleinement à l'instant T. Peut-être que ce sera le cas demain pour Yannick Sinner, mais Nadal à Roland-Garros, ce n'est pas l'endroit idéal et l'adversaire idéal pour le faire. Donc, je pense qu'on va voir un match comme on en a vu déjà des dizaines et des dizaines avec Rafael Nadal à Roland-Garros.
Juste le petit bémol par rapport au jeu de Nadal, ça c'est pas pour ajouter du piquant parce qu'on a tout dit, je crois, et on est tous les trois d'accord. C'est quand même quelque chose qui le turlupine depuis un petit moment, c'est son service. Alors, c'était très mauvais, comme il a dit lui-même, à Monte-Carlo. C'est monté un petit peu en puissance mieux. Au fur et à mesure. C'était mieux. Mais là, le match contre Norrie au troisième tour, il est quand même breaké un paquet de fois. Et notamment, je crois que c'est au deuxième set hein, où il est breaké une première fois. Il débreak, il repère son service, il reprend. Bon, il a une telle marge face aux Britanniques. Évidemment, il n'y a aucune conséquence et ça fait 3-3 et 4 à la fin ou 3-3 et 3. Mais attention quand même, parce que ça, plus le niveau de l'adversité va monter, plus ça peut devenir problématique. Et je pense qu'il va devoir encore progresser sur ce coup-là. Et je trouve qu'il se fait encore trop breaker dans ces matchs, et notamment par des joueurs qui sont, entre guillemets, bien sûr, des seconds couteaux. Hein, Norrie, c'est un joueur dangereux, mais qui est loin en termes de niveau de Nadal. Donc attention quand même à ce moment-là. Mais pas pour le. Peut-être ça peut le jouer des tours déjà contre Sinner, hein, peut-être pour perdre un set, mais je pense que ça ne lui fera pas perdre ce match-là en tout cas.
Donc à vous entendre, au niveau des pronostics, ça risque d'être assez similaire. Allez, vas-y, Laurent, commence.
Allez, Nadal en 4. Allez, un petit set pour Sinner quand même.
Bertrand ?
Ah, j'aurais bien aimé parler après Camille. C'est important la parole.
Ah, finalement. Vas-y, c'est
ouais. Nadal en 3.
Ah, voilà, elle a parlé. Elle a dit Nadal en 3. Eh bien, c'est donc ouais, difficile là. Hein. Il y a deux points de plus. Ouais. Ou un.
Allez.
Je vais dire Nadal en 3.
Sinner en 3.
Nadal en 3.
Nadal en 3. Eh bien, c'est super. On verra ça ensuite. Ça. En troisième rotation, du coup, sur le Philippe Châtrier lundi. Merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mardi. Pas lundi, car lundi, vous avez rendez-vous avec Deep Impact. Soyez au rendez-vous. D'ailleurs, il y a des beaux cadeaux gagnés, dont la raquette de Nadal et de Muguruza. Il faudra partager l'émission sur Facebook. Donc, suivez bien l'émission avec Arnaud Di Pasquale et Olivier Canton. Nous, pour Terre débattue, n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr. Et si vous avez le temps, comme tous les jours, allez taper la balle. Allez, salut.
Salut.
Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.